J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mboujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Très heureux de partager ces 57 minutes interactives avec vous, mesdames et messieurs. Il faut encore merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. L'axe routier Kisangani Bunia est dans un état d'abandon total. Aucun travail de maintenance n'est si fait depuis plusieurs mois, ce qui rend la circulation des personnes et des biens très difficile sur les routes nationales 4 et 27 qui relient ces deux villes de l'est de la RDC. Selon plusieurs rapports des experts en transport multimodal à travers le pays, la situation des infrastructures routières laisse à désirer, sauf quelques axes ayant bénéficié et qui continuent de bénéficier de l'appui des partenaires et du Fonds national des entretiens routiers FONER. Dans quel état se trouvent les routes chez vous? Mesdames et messieurs, participez à cette émission à l'adresse pa@radiokapi.net. Vous pouvez nous rejoindre également en direct en composant le 081 890 63 30 ou encore le 081 890 49 69. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Alain Goy, Nico Kalambay, Pierre et Lamégie concourent tous à la production de cette émission supervisée par Martin Sebujangwe et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Conférence de presse bimensuelle des Nations Unies. Suivez en direct de Radio Okapi la conférence de presse bimensuelle des Nations Unies, mercredi de 11h15 à 12h. Rediffusion le soir à 22h et jeudi à 14h15. L'actualité des Nations Unies en long et en large sur la fréquence de la paix.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne Monsieur Barnabé Milingano. Barnabé, bonjour. Alors vous intervenez là comme un expert en construction et maintenance des routes et chaussées. Vous venez d'ailleurs de faire une tournée en province. Est-ce que vous pouvez nous brosser l'état dans lequel se trouvent certaines routes en province à ces jours? Du moins les provinces que vous avez déjà visitées.
Ouais, merci beaucoup, J.R. Je tiens à affirmer ici que je viens effectivement de faire le tour de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Parce que je suis chercheur actuellement en leadership pour ce qui concerne les élections qui vont avoir lieu le 23 décembre 2018. La réalité, c'est que nous devons savoir que la République démocratique du Congo est couverte en grande partie par une cuvette, c'est une zone pluvieuse. Il est difficile que les routes se maintiennent en bon état, parce qu'il faut noter que la plupart de nos voies ici étaient encore des routes en terre. La politique du chef de l'État qui était de relier des poules économiques, ça veut dire relier Kasumbalesa à Aru, relier Boma à Lubumbashi, à Kasumbalesa, constituer le ring autour du Congo, était une bonne politique des cinq chantiers. Mais il s'est avéré qu'il y avait un grand problème de traverser des obstacles. La République démocratique du Congo contient plusieurs fleuves en son sein. Ce qui fait qu'il fallait d'abord se concentrer pour faire des ponts. Vous avez des ponts comme Luangé, c'est presque un kilomètre de longueur. Vous avez Pozo, plus de 750 kilomètres. Vous avez des ponts comme Lualaba. Alors, faire ces travaux de traverser des obstacles a quand même pris beaucoup d'argent et a pris beaucoup de temps. Ce qui fait qu'en contrepartie, la voie où il faut rouler, la route comme on appelle, s'est dégradée totalement. Et fort malheureusement, à côté de ça, vous avez l'échec de la politique des FONER, qui n'associe pas les riverains, par conséquent. Les traversées ou les routes là où les gens doivent rouler, c'est dans un état catastrophique actuellement sur toute l'étendue de la République.
Alors, quand nous jetons un regard sur l'axe routier, notamment sur l'axe routier Kisangani-Bunia, on nous signale qu'il est vraiment dans un état d'abandon total. Et pourtant, cet axe était vraiment porteur d'espoir pour la population riveraine.
Ouais, mais
ces deux villes.
Chaque jour là-bas, il pleut chaque jour. Là, au moins, c'est moins grave, c'est moins flagrant. Je te donne, par exemple, l'axe Uvira, Baraka, Fizikalemi, où il y a par exemple une grande société d'exploitation minière qu'on appelle Bandro, mais l'état de la route est catastrophique. Et pourtant, il y a des exploitations minières dans la région. Tu prends l'axe Bukavu-Kisangani, la route Bukavu-Kisangani. Il y a une grande société qui fait l'exploitation des coltans dans la région de Walikale, mais la route est tellement mauvaise. Si tu regardes les explorations de Total et Esco entre Beni, où il y a trop de tueries actuellement, toutes ces grandes multinationales là qui arrivent dans notre pays ne se soucient pas de l'état de route. Et pourtant, les engins passent pour aller installer les usines, faire l'exploitation minière, mais personne ne s'occupe de la route, effectivement.
Mais c'est quand même un devoir égalien de l'État de construire des routes. Et surtout, c'est une matière, et en ce qui concerne les routes nationales, la matière, c'est une matière exclusive du gouvernement central.
Ouais, mais c'est un secteur qui est très infiltré par la corruption. La justice n'est pas là. On demanderait à l'État de poursuivre tous ces gens-là. Parce qu'il y a une mafia extraordinaire. Là, on fait des routes, par exemple, à 1 km, vous êtes au-delà de 1 million de dollars, et pourtant, les moellons, vous les prenez à Caligresse. La chaussée qu'on a fait ici à Kinshasa, les boulevards, les Mojibae, consorts, où est-ce qu'on a pris les moellons? À Caligresse, ici, c'est à moins d'un kilomètre. Mais en ce temps, vous avez les routes au-delà de 1 million de kilomètres, 1 million de dollars. Prenez le cas, par exemple, de la voirie de Goma, les opérateurs économiques eux-mêmes ont pris en charge. Mais aujourd'hui, M. Fanny, il a le marché de construire place du 24 vers l'aéroport et puis aller vers Goma. Mais tu sais ce qu'il fait là? Il importe le moellon de Goma. Il amène les moellons, les pierres de Goma par le bateau pour construire une route à Bukavu. Et pourtant, à Nyangezi, vous pouvez avoir les moellons. Derrière la brasserie là-bas à Bukavu, vous pouvez avoir les moellons là-bas. Mais lui prend les moellons à Goma pour aller construire les routes à Bukavu. Ça, c'est une preuve que c'est un secteur infiltré par la corruption, tout le monde fait du fraude extraordinaire là-bas. Donc, si vous y regardez, l'État doit arrêter tout le monde là-bas. Il n'y a que des voleurs et des bandits là-bas.
Voilà. Alors, donc, quand vous nous évoquez quelques axes à problème, mais il y a cette question de Foner. Aujourd'hui, l'entretien, c'est vrai, il y a des routes, vous avez dit, il fallait faire avec l'obstacle des problèmes des traversées, qui constituait quand même un obstacle important, que le gouvernement a pu quand même contourner en construisant notamment des ponts à Luangé, à Pozo et puis alors là-bas. Alors aujourd'hui, ces ponts sont dans quel état? Il fallait assurer la maintenance jusqu'à un certain niveau, et l'agence qui était, disons, commis à cet exercice, c'est les Foner. Est-ce qu'aujourd'hui, le Foner fait exactement le travail, la mission, accompli sa mission telle que cela lui a été assigné?
Le président de la République savait qu'on ne peut pas remettre l'argent des 5 chantiers entre les mains des Congolais. Malheureusement, il fallait avoir une banque d'investissement, une banque pour soutenir ce secteur. On avait créé le bureau de coordination pour faire suivre tout ça avec Moïse Ekanga et machin. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que vous avez les mêmes Chinois qui sont sur terrain, qui construisent les routes, et c'est eux-mêmes qui gardent l'argent. Il suffit donc d'un plus rien, ils vous donnent, comme nos chefs aiment demander l'argent directement, là, on lui donne 30 000, ils s'y facturent 300 000 dollars. Ça, c'est le secteur qui est en train de paralyser les financements des chantiers, comme on avait commencé. Donc, la corruption, encore une fois, les Chinois, ils sont spécialisés dans ça. Mais si vous regardez les routes que les Chinois ont fait au Rwanda, ou bien ce qu'ils font au Burundi, ou même chez eux en Chine, c'est le ciel et la terre par rapport à la RDC. Tous les ministres des ITPR qui manquent les moyens de sa politique étaient obligés de recourir tout le temps au fonds de Foner. Vous voyez par exemple les recettes de Foner de Litouri, les recettes de Foner de Matissi sont utilisées ici à Kinshasa pour faire le colmatage.
Est-ce que vous pouvez nous faire une idée? Oui, Barnabé, est-ce que vous pouvez nous faire une idée aujourd'hui? Les déficits en réseau routier dans l'ensemble du pays, c'est de quel ordre?
Non, c'est en dessous de 20%. En dessous de 20%, c'est extraordinaire. Hein, tu ne peux pas quitter Kinshasa, Kananga, comme c'était l'idée du chef de l'État. L'État de la route n'est pas très bon en grande partie. Tu ne peux pas faire Kananga, Mbujima et Lubumbashi, l'État est catastrophique. Tu ne peux pas faire Kasumbalé, Sabukavu, Goma, Kisangani, Aru. C'est extraordinaire. C'est dans un état de délabrement terrible. Il n'y a pas moyen de rouler en voiture ou...
Voilà.
Même les blocs...
Voilà, on va associer beaucoup quand même dans ces panels d'invités des gens qui sont experts à la matière, étant peut-être que vous écoutez des auditeurs, et puis on reviendra à vous pour votre conclusion avant d'accueillir d'autres personnes. Ingénieur Mangoyo, vous êtes à Kinshasa et fidèle à Mbandaka. Gardez la ligne 09-97-06-6330 ou encore les 09-97-06-4969 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous entamons la deuxième quart d'heure de cette émission. Ingénieur Mangoyo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, J.R.
Quelle est votre contribution, Ingénieur Mangoyo?
Merci, J.R., pour la parole m'accordée. Je remercie Radio Okapi pour ce thème aussi important. Vous savez, Gère, comme disait, je crois, Henri Morton, je crois, Stalin, qui disait que la RDC ne valait pas un penny sans le chemin de fer. Je crois qu'il avait raison. Mais ici, puisque nous parlons des infrastructures routières, Gère, moi, j'étais le premier à dire une fois, au lendemain de la mise en place de ce fameux FONER, je me disais encore une fois, voici une structure de plus dans le domaine des infrastructures. Pourquoi je l'ai dit? Parce que moi, je ne croyais pas à l'efficacité du FONER. Je me disais, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'office de route, nous avons la voie et l'OVD, et nous avons. Alors finalement, qui fait quoi? Je vous dis que il y a vraiment, comme l'a dit notre invité là que vous avez interrogé là, qui a dit qu'il y a une mafia organisée et dans ce domaine des JTPR. Pourquoi je l'ai dit? Regardez, à l'époque coloniale, moi j'étais encore tout petit, à l'époque coloniale, eh bien, nous avions des terres, des routes en terre battue, mais des routes qui étaient tout le temps entretenues. Et ça, sur toute l'étendue du territoire national, si je ne m'abuse. Bien entretenu. Et ce pays n'a jamais changé de superficie. Il est toujours là, intact. Mais aujourd'hui, quand j'apprends que l'entretien des routes dans tel coin du pays pose problème, alors qu'on a mis en place FONER, ça m'étonne. On a vu à un moment donné l'office de route, par exemple, avec ses engins, moisir dans les fins fonds. Par manque de carburant, par manque de ceci. Je vais te citer un exemple hier. Vous savez, moi, je suis à Malouéka ici. Hein. Il y a une route qu'on a commencé à construire, l'avenue Njolana, qui va du pompage ou jusqu'à Lupen, pour faire des jonctions à Lupen. On a travaillé à partir des pommes les Calabas, à l'entrée de l'avenue Mamayemo, jusqu'au niveau du terrain de football à la Régie des Eaux.
Donc vous parlez de la route qui passe par Sangamamba?
Non, là, oui, Sangamamba, mais Sangamamba est un peu plus loin, là. Ça n'arrive pas là-bas, mais ça part seulement du pompage, évidemment, juste à l'entrée de Mamayemo, vous dépassez le pont, qu'on appelait l'époque Pomoleka.
Pomoleka.
Vous montez, oui, on a asphalté seulement jusqu'au niveau du terrain de football à la Régie des Eaux.
Vers la Régie des Eaux, vers la Régie des Eaux.
Voilà.
Ou à proximité de Mbatamayang,
où ils vont monter.
Tout à fait. J'ai un peu la cartographie, au fait. Ça fait longtemps que je suis passé par là, mais j'ai un peu la cartographie.
Voilà.
Ouais. Alors,
vous voyez cette route-là, JR. Si on a arrêté les travaux, et au-dessus là-bas, jusqu'à Lupin, là-bas, il y a des érosions parce qu'ils ont démoli des maisons de part et d'autre, et on a arrêté les travaux. Et il y a des érosions qui se font à cause justement de ce qu'on a fait là-bas. Mais on n'y pense pas. Oh, c'est une route d'intérêt. Ça peut désengorger les autres artères, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je veux dire que c'est bien dommage. Notre pays n'a aucune politique des infrastructures routières. Aucune politique. On tâtonne. Et les Chinois, comme l'a dit notre notre invité là. Vous savez que...
Mais finalement, ingénieur Mangoyo, c'est un paradoxe avec tous les secteurs, disons tous les services que nous avons dans ce secteur des ITPR, comme vous l'avez dit, il y a l'Office des routes, il y a l'OVD, il y a le Cellule des infrastructures, la Cellule des infrastructures financée par la Banque mondiale, il y a la CGT avec les fameux projets 5 chantiers financés par les Chinois, et tant d'autres pour ne pas... En tout cas, la liste n'est pas exhaustive.
Oui, Gérard. Et puis, ce qui frappe, hein, c'est comme l'a dit notre invité là. Vous savez, bon, ça, moi, ça m'écoeure lorsqu'on dit les Chinois construisent des routes dans d'autres pays d'Afrique. On a cité le Rwanda, on a cité d'autres pays. Mais là, ici, regardez les routes construites par les Chinois. Il y a des malfaçons. Et personne n'y fait attention. Nous avons l'impression que, cette structure-là, agence de grands travaux, je ne sais pas s'il représente bien...
Mais Mangoyo, parce que quand vous parlez, vous prenez l'exemple seulement de Kinshasa, mais je crois que ceux qui sont dans les secteurs en province, ils auront peut-être une autre lecture avec les travaux, disons, exécutés par Sinohydro au niveau de Kisangani et le Nord Kivu. Je crois que ce serait...
Oui, c'est bien. Parce que comme l'a dit notre... Si on peut, si l'État, avec une politique là, est cohérente, le développement des infrastructures. Ils peuvent approcher. Les multinationales qui opèrent dans notre pays, leur obliger, signer des contrats avec eux. On arrange. Regardez la route Boma-Mwanda. Vous connaissez l'importance de la cité de Mwanda, Gérard. Mais depuis combien de temps cette route
est abandonnée,
est toujours
abandonnée,
mauvaise? Qu'est-ce que ça peut coûter au pays pour asphalter cette route d'importance économique très importante?
Merci beaucoup. Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo.
Je voudrais terminer, excusez-moi de dire, si on avait un parlement responsable, nos députés
se saisir de cette affaire. Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo. Alors, docteur Fidèle, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, JR, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quel est votre avis, Fidèle?
Oui, JR, je m'en vais comme Radio Capi l'a bien intitulé.
Oui, s'il vous plaît, Fidèle, commencez peut-être par nous présenter l'état dans lequel se trouvent les routes chez vous.
Ok, en fait, vous allez souffrir que je parle de la route, de l'état des routes de la province du Kasaï, parce que j'y étais il n'y a pas longtemps. La route, prenons l'exemple, la route de Chikapa-Kamako, la route de Chikapa-Kabungu et la route de Chikapa-Kananga. Ces routes dont je viens de citer tantôt sont dans un état, je ne sais pas s'il faut l'appeler un état de délabrement, sont dans un état puté, alors que ce sont des routes d'une valeur économique. Moi, je dis ceci. Les autorités de notre pays doivent arrêter avec cette culture d'improvisation, cette culture d'urgence qui consiste à agir à la sauvette. Non, il faut toute une politique. JR, moi j'ai eu la chance de fréquenter l'Angola et la Zambie. Là, j'ai vécu la mise en place d'une brigade de gestion et d'entretien des infrastructures routières. Cette brigade a tout le moyen de sa politique. Quand elle constate un dégât ou une situation de délabrement de la route, très vite elle fait appel à son équipe pour la réparation et c'est dans un plus bref délai. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Les autorités doivent mettre fin à cette culture d'improvisation, d'urgence. Quand ça doit barder, il faut que Okapi puisse tirer la sonnette d'alarme, il faut que la population se lève. Non, le pays a besoin d'une politique, mais alors une politique sérieuse. Parce que vous l'avez précédemment cité, il y a tout un arsenal de structures, il y a Foner, il y a tout ce que vous venez de citer. Mais au fond, est-ce que c'est un travail de qualité qui se fait? Est-ce une politique sérieuse? Moi, je dis non. Parce que ce sont des structures, à mon sens, qui me paraissent des vivrières pour des gens qui vont aller puiser de l'argent et s'écartent même de la mission principale de la gestion et de l'entretien de routes. Moi, je pense, le pays, le route JR, ce sont les canaux de développement d'une nation et d'un pays. Et c'est dommage aujourd'hui, et c'est curieux que cela ne puisse pas attirer l'attention des dirigeants de ces pays. Un pays ne peut pas se développer quand il n'a pas de route. Un pays ne peut pas se développer quand il n'a pas de route.
Mais ma foi, on est dans quel pays? On est dans quel pays?
Oui, parce que l'autre...
dont je viens de faire allusion, partant de Jikapa et Kamako, ce sont des routes de valeur économique. Mais ces routes, personne n'en fait grand cas. Personne n'en fait grand cas. Mais où allons-nous avec ces pays? Moi, je pense que c'est ici l'occasion de tirer la sonnette d'alarme pour que les autorités, les dirigeants de ces pays prennent conscience que le développement de ces pays ne dépend pas de l'extérieur, mais le développement de pays dépend du sérieux dans les intelligences des filles et des fils de ces pays.
Alors Fidèle, parce que vous êtes en Mbandaka, quel est l'état dans lequel se trouvent les routes à Mbandaka?
Déjà, à Mbandaka ville, c'est à peine, nous avons pratiquement deux ou à peine trois routes asphalté dans la ville de Mbandaka. Mais il suffit de faire un tour à Bikoro. Il suffit de faire un tour à Bikoro. C'est déjà, au départ, c'est une route qui n'est pas asphaltée. Mais quand il pleut, elle devient quasiment impraticable. Quasiment impraticable parce qu'il y a une route qui quitte Mbandaka vers Bandundu. Mais là, c'est
Et dans quel état se trouvent les routes qui relient Mbandaka à d'autres villes de la province?
Non, mais bon, pour votre information, la ville de Mbandaka, elle est liée à d'autres provinces par la voie fluviale, mais néanmoins, il y a quelques routes, comme la route dont je viens de faire allusion.
C'est pratiquement des sentiers.
Bikoro, et elle se prolonge vers les autres villes de l'intérieur du pays. Mais l'état de route ici, comme nous sommes dans une province, dans un climat tropical, quand il pleut, ce sont des routes qui deviennent impraticables. Je dis bien impraticable quand il pleut. Ce sont des routes qui deviennent impraticables juste après avoir connu de la pluie diluvienne.
Merci beaucoup,
c'est
Fidèle.
C'est ça au moins l'état de route que nous avons ici dans la province.
Merci beaucoup, Fidèle. Alors on revient à vous, Barnabé Milingano. Qu'est-ce que vous avez retenu des réactions des uns et des autres?
Oh, mais j'apprécie leur franchise. Hein. Ils sont eux-mêmes témoins de ceux qui regardent le terrain, c'est la réalité. De la réalité.
Oui, allô?
Ouais.
Oui, comment vous réagissez par rapport aux propos des uns et des autres?
Non, mais ils ont raison. Vous savez, le gouvernement congolais doit prendre le secteur routier comme une priorité. Ce qui va régler les sociales de ces pays, il n'y a que les routes et l'énergie. Nous devons être sérieux. Si tu regardes, JRG, journaliste, va regarder. Combien un camion de banderaux paye pour le péage dans le sud? Tu verras, et tu vas voir l'état de la route de la frontière du Burundi jusqu'à Barak. La traversée même d'Ouvira, c'est catastrophique. J'étais là il n'y a pas 10 jours. Ce n'est pas possible.
Mais est-ce que Barnabé, on peut dire qu'aujourd'hui, avec tout l'arsenal qu'on a dans les secteurs des IPR, avec plusieurs structures, l'arsenal des structures, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui les problèmes se posent au niveau de la coordination?
Non, les problèmes ne se posent pas au niveau de la coordination. Les problèmes se posent au niveau de la justice. L'État n'est pas derrière ces gens-là. Ils savent qu'ils peuvent surfacturer, ils savent qu'ils peuvent voler comme ils veulent. Allez voir, par exemple, le dossier de traversée de la buse qu'on a fait sur Sotimat. Tu verras, par exemple, l'installation chantier, ce n'est que trois containers qu'on avait placés, mais ça a coûté 300 000 $. Installation chantier, 300 000 $ en ville. Donc, vous trouvez des secteurs comme ça, vous avez des clés où on vole comme pas possible. La justice doit être derrière les infrastructures en RDC. Ce n'est que ça la solution. Mais sinon, si on continue à voir les tribalistes là-dedans, on continue à laisser tout le monde faire ce qu'il fait, ce n'est pas possible, on ne va pas avancer.
Merci.
Dans un pays tropical où il pleut tout le temps, il y a beaucoup de pluie, or l'eau, c'est l'ennemi
de la chaussée. Merci.
Il faut être sérieux. Dans tous les pays limitrophes ici, le secteur routier, c'est l'État congolais lui-même qui est là. Donc pour ne pas dire la présidence est là pour regarder. Et on arrête les gens tous les jours dans ce secteur-là. Il n'y a qu'un RDC où vous pouvez avoir des gens qui font 10 ans, 12 ans, avec un bilan mitigé de leur gestion, et on continue à les laisser. C'est catastrophique ce qu'on a dit. Donc,
merci beaucoup, Barnabé Milingano, d'avoir accepté de partager ces minutes avec nous, dans cet échange citoyen. Merci beaucoup et à très bientôt. Alors, on poursuit cette émission avec vous, Maître Bibiche. Vous êtes à Kisangani. Bonjour, Maître.
Bonjour, Pierre. Bonjour à tous nos auditeurs.
Alors, quelle est votre réaction, madame?
Merci beaucoup, JR. Vraiment, je vous félicite pour cette problématique de nos routes. Je suis à Kisangani, JR. Maintenant, pour prendre un véhicule pour JR, donc tu peux passer 4 à 6, voire même une semaine. Dès que vous quittez Kisangani, déjà à 23 km de Kisangani, vous trouvez une grande barrière où on perçoit les différentes taxes. J'aimerais savoir où partent-ils nos différentes frais. Les fonaires et là, ils perçoivent. Qu'est-ce qu'il attend pour arranger nos routes? Parce que c'est un fonds d'entretien routier. Qu'est-ce qu'ils font? Monsieur JR, je ne peux pas parler de mon cas. La route qui Kisangani, Baouele. La route, là, c'est Kisangani à Bazouele, c'est 326 kilomètres. Maintenant, si vous voulez voyager au bord d'un bus, mettez en tête que vous allez passer 4 ou 5 jours. Je vous dis, là, nos routes sont dans un état de délabrement très, très avancé. Je ne sais même plus rentrer à Bouta. Aussi, hier, moi, j'ai constaté que c'est un problème de l'attribution de marché au niveau du gouvernement central. Parce que c'est là, oui, c'est là qui gagne les marchés. Ils n'arrangent pas nos routes comme il se doit. Ils prennent peut-être 5 mètres. Pour une grande route, les bambous, les arbres sont là. Le soleil n'atteint pas le sol et dès qu'il pleut,
c'est catastrophique. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Au niveau du gouvernement central, ils peuvent au moins tenir compte de cet aspect-là.
Cet aspect des choses.
Au moins 10 mètres, la grande route, et que le soleil atteigne les sols, nous aurons dit équilibrer cette situation.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Bibiche, d'avoir appelé de Kisangani. Vous avez évoqué les cas de la route Kisangani-Bazouele, l'axe de près de 300 kilomètres qu'on peut parcourir peut-être en 2 heures. Mais là, les passagers font 4 voire même 6 heures pour atteindre d'un coin à un autre. Donc c'est pratiquement difficile. Et vous en appelez donc à la conscience de ceux qui sont commis à travailler cette route. Parce que moi, si ma mémoire est très bonne, la route a été, disons, les travaux ont été exécutés à l'époque avec les projets, les contrats chinois, Sino Hydro qui devait exécuter. Mais je crois que notre invité, Charles Médard Ilunga, le DG de la CGT, pourrait nous donner des précisions là-dessus. Et est-ce que la route, elle est encore abandonnée, en terre battue? Quelle est la situation vraiment à ce niveau, au niveau de Kisangani et dans l'ensemble de la province? Merci beaucoup, Maître Bibiche. Alors, Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Gérard. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. Bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre contribution, Félicien?
Et moi, je dis que c'est un problème de volonté politique. Nous n'avons pas encore des hommes qui peuvent dire que ce pays, c'est leur pays, et ils doivent le construire, ils doivent le bâtir. Ces gens qui ont le sens du patriotisme et qui ont besoin de faire voir aussi au monde que nous sommes un grand pays, on ne les a pas encore eu. Quand on les aura, ils vont travailler et ce pays sera un pays qui va refléter à travers le monde. Comment imaginer que sous la colonisation, on pouvait atteindre même les villages les plus éloignés à l'intérieur du pays? On peut prendre du manioc, on peut prendre des arachides, on peut prendre du café, et les amener même jusqu'au chef-lieu de province, du chef-lieu de province jusqu'à la capitale. Comment pouvez-vous penser que dans tous les coins, on pouvait arriver avec du sel et des sardines, vendre dans des magasins qui sont implantés par-ci par-là, les dispensaires par-ci par-là, et sous la colonisation. Et aujourd'hui, nous sommes indépendants. Nous déterminons nous-mêmes et nous gérons nous-mêmes nos richesses. Et nous sommes dans cette catastrophe. Dans quel coin de la République, quelle province où il n'y a pas de problème de route, quand il pleut surtout? Vous allez vous fatiguer si vous voulez demander à tout le monde d'indiquer ce qui se passe chez lui. Mais je vous dis que les voisins, que ce soit les Rwanda, la Syrie et tout ça, allez voir dans les frontières avec la République démocratique du Congo. Ce qui vous étonne justement quand vous arrivez à une frontière, vous voyez ce qui se passe chez eux, il y a en matière de route, et ce qui est chez vous, c'est vraiment comme...
C'est le ciel et la terre. Voilà, merci beaucoup Félicien. Alors on retrouve Charles Médard Ilunga qui est avec nous. Bonjour Monsieur Ilunga, vous êtes avec nous?
Bonjour, bonjour.
Voilà,
bonjour.
Alors nous rappelons que vous êtes le DG de la CGT, l'agence congolaise des grands travaux. Aujourd'hui, c'est vrai, l'agence des grands travaux a exécuté beaucoup de travaux dans la ville de Kinshasa notamment et ainsi qu'en province en ce qui concerne le projet 5 chantiers. Est-ce qu'on peut dire que ces infrastructures routières se maintiennent encore en état jusqu'à aujourd'hui?
Oui, je crois que comme tous les ouvrages, les infrastructures se maintiennent, mais les infrastructures ont besoin de l'entretien. Il n'y a pas un seul ouvrage qui peut vivre indéfiniment sans connaître des entretiens. Et je crois que vous avez, pendant que j'entrais en ligne, vous parliez de la route qui Kisangani. Non, là, c'est pas une route qui a été pilotée par l'Agence Congolaise des Grands Travaux. Là, c'est encore... ça, il faut plutôt... regarder ça avec les autres partenaires. Alors, vous avez parlé des routes à Kinshasa. Je crois que malheureusement, nous avons souvent la mémoire trop facile. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui viennent à Kinshasa réalisent que les infrastructures routières sont très bonnes, sont très larges. Et les dégradations, on les connaît, dues généralement aux questions d'assainissement. Vous avez relevé la question de maintenance. Vous savez que dans notre pays, nous avons connu une longue période de sous-capitalisation, c'est-à-dire que l'absence totale de maintenance. Il y a des arbres qui ont poussé sur des routes nationales et tout est coupé. Mais aujourd'hui, il y a quand même un bilan à faire. Je peux vous dire que vous pouvez aller sur la route Luambo en train d'aller vers Manono, vous pouvez rouler à 130 km à l'heure, c'est plus ou moins déjà 180 km. Il y a beaucoup de fosses sur les routes en terre, il y a des projets qui se font, non pas seulement à Kinshasa, de manière quand même à assurer une bonne connectivité des différents centres. Mais comme vous savez, il y a des gros efforts à faire. Le territoire national est suffisamment grand et le besoin est important.
Alors, vous venez d'une tournée en province. Vous avez été à Kalemi, si je ne me trompe pas. Est-ce que les grands travaux a pu exécuter quelque chose au niveau de Kalemi? Quel est son état? Ou bien peut-être c'est un projet?
Ok, non. En fait, nous sommes en plein projet. Et, vous avez parlé de Kalemi, mais il y a des projets à Boma, il y a des projets la route Boma-Mwanda, il y a des projets et des projets sur la route Lubumbashi-Kasumbalesa. Et tantôt, il y a un compatriote qui a effleuré le travail qui a été fait pendant la colonisation. Aujourd'hui, il faut apprendre à reconnaître les efforts qui sont faits. Aujourd'hui, sur l'axe Lubumbashi, par exemple, avant de parler de Kalemi, Lubumbashi-Kasumbalesa, nous sommes en train, en ce moment, de faire 35 kilomètres des routes bitumées. Je crois, quand vous regardez les statistiques, la production annuelle de routes bitumées a toujours été très faible. Pendant la colonisation, c'était même 25 kilomètres par an. Et maintenant, quand déjà c'est sur un axe, vous pouvez faire 35 kilomètres, Sur l'axe de Lubumbashi, Kasumbalesa, c'est aussi proche des 30 kilomètres aussi. À Kalemie, vous avez parlé de Kalemie, il y a le boulevard Lumumba, 12,5 kilomètres, en 2x2. À Boma, il y a le boulevard Joseph Kabila, qui est en train de se faire 12,5 kilomètres. Et là, je vous dis, quand vous allez à Boma aujourd'hui, la ville de Boma n'est pas celle que vous avez connue il y a quelques années. Donc il y a beaucoup d'efforts qui s'engagent maintenant. Pendant une année, l'agence congolaise est tentée de piloter 10 kilomètres de voirie dans la ville de Kisangani. Donc il y a comme ça beaucoup de projets à l'intérieur du pays, les routes en terre. Vous savez qu'aujourd'hui, pour faire Kamina, Kabongo, les camions font en tout cas 7 jours, 8 jours. Et nous voulons qu'au terme des travaux qui ont commencé, qu'en tout cas au bout de 3 heures, on soit en mesure de faire ce parcours et de pouvoir accélérer la production agricole. Mmh. Il y a le coin, d'autres coins, Kabondo Dianda vers Mukwende, donc vous avez plus ou moins 200 kilomètres, qui sont en train d'être traités maintenant et de manière à alléger la misère de la population. Vous avez Mweneditu vers Mbujimayi, nous avons fait un travail très important. La route Goma, Rutshuru, nous avons fait là aussi un travail assez important. Mais écoutez, comme vous dites, il y a beaucoup à faire. En ce moment, la route Idiofa vers Ingoudi, en plein travaux, il y a d'abord l'asphaltage qui a commencé sur les 6 kilomètres. Et vous voyez, je crois qu'il y a beaucoup à dire sur les travaux qui sont en train de se dérouler en ce moment.
Oui, alors juste une question de curiosité, vous l'avez dit, peut-être de manière un peu tacite, et d'autres experts l'ont toujours dit et à chaque fois qu'ils donnent de la voix, que nous avons un réseau routier qui est vraiment très très faible en Afrique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie qu'on soit dans un arsenal de structures, des ITPR très 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 importants, où nous avons l'OVD, l'Office des routes, la cellule des infrastructures, la CGT, les FONER et tant d'autres, mais on n'arrive pas à améliorer ces faibles taux.
Non, il ne faut pas dire qu'on n'arrive pas à améliorer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réformes qui se mettent en marche et les réformes se poursuivent, de manière à assurer une meilleure coordination et de manière à avoir les ressources nécessaires. Vous savez qu'en ce moment, nous avons beaucoup de projets, la route Kolwezi-Dilolo, plus de 400 kilomètres, et très souvent notre pays a toujours été considéré comme étant un chaînon manquant dans beaucoup de routes transafricaines. Je ne sais pas si vous avez une idée sur la transafricaine numéro 9, celle qui doit aller de Beira à Lobito. Donc, grâce aux efforts qui sont en train d'être faits maintenant, je crois que avec la route Kolwezi d'Ilolo asphaltée, notre pays va se connecter sur la zone numéro 9 et nous allons jouer la RDC avec d'autres projets qui sont en train de se développer maintenant, la route Kolwezi Solwezi vers la frontière et la nouvelle route Matadi Kinshasa qui a déjà commencé pratiquement. Et donc c'est quand même des efforts qui sont en train de se conjuguer. Mais comme je vous ai dit, le besoin est immense à l'échelle de notre continent, notre pays continent. Il y a beaucoup, beaucoup trop à faire. Et chacune des structures est en œuvre pour essayer d'apporter quelque chose. Donc il y a beaucoup à faire.
Voilà, on va écouter les auditeurs qui nous ont rejoints. Il y a Claudine qui est à Bounia et Omar à Kinshasa. Claudine, bonjour.
Oui, bonjour Radio Capit, bonjour.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, c'est Claudine Zeni qui appelle à partir de Bounia, en province de Ituri. Monsieur J.R., je vous remercie d'abord pour ce sujet. Vraiment un sujet très important et très intéressant, parce que ça nous touche, nous, au niveau de la province de Ituri. Je voudrais un peu revenir sur le premier mot de M. Barnabé qui est avec vous là-bas et qui avait parlé par rapport à l'argent des fournières que perçoit on perçoit au niveau de la province de l'Ituri. Vraiment, je parle un peu, vous allez comprendre, je parle un peu avec d'émotion Pourquoi? Parce que ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué d'apprendre que l'argent des fonaires perçu à partir de ma province de Ituri sert plutôt pour d'autres routes. Il a parlé de routes de Kinshasa. Alors que nous, en province de Ituri, nous avons des routes qui sont en état de délabrement avancé. Au niveau de la province de Ituri, nous avons deux routes nationales. Nous avons la RN numéro 4 qui va des commandes du Kakishamani et nous avons la RN 27 qui va de Goli, la frontière avec l'Ouganda, jusqu'à Komanda. Et toutes ces routes sont à l'état de dégradement alors que chez nous ici, on paye le fonaire. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va s'appeler le fonaire. On paye le fonaire depuis longtemps, et chaque fois la population crie, les commerçants crient. On paye cet argent. Ça fait quoi? C'est aujourd'hui, merci M. Barnabé pour nous avoir éclairé que cet argent sert pour d'autres routes, notamment au niveau de la capitale, comme si la province de Ituri n'avait pas une importance. Là, je reviens encore sur monsieur le ministre des ITPR à son temps, son excellence Fridolin Kachwechi. Fridolin Kachwechi, moi je ne pense pas que l'Ituri pourra lui pardonner jusqu'au jour où on va asphalter la RN27. Pourquoi je dis cela? J.R., il y avait un montant de 2 millions $260 millions qui était disponible pour asphalter la RN27. Donc, à partir de Goli, jusqu'à Komanda, en province de Ituri. Son excellence Fridolin Kachwechi descend, il vient ici en Ituri et il dit que cette route n'a pas une importance économique qui pourra lui faire donc, cet avantage d'être asphalté. Allez-y comprendre. Or, si vous observez, si vous venez, si vous habitez ici, vous allez voir que c'est une grande route. D'abord, les véhicules qui viennent de
l'Ouganda,
qui viennent de Kenya, qui viennent de Soudan, qui viennent de tout, du côté des Grands Nord là-bas. Tout passe par cette route-là. Comment son excellence Fridolin Kachwechi, le ministre des ITPR à son temps, va dire que non, cette route ne mérite pas d'être asphaltée.
Oui, mais Madame Claudine, qui vous a donné ces chiffres-là de 260 millions?
Oui, nous avons suivi. Nous avons suivi sur les voies des zones.
260 millions.
Nous sommes toujours informés. Nous sommes informés. Et puis, laissez-moi terminer mon idée.
Allez-y.
On va disponibiliser seulement 60 millions et on va faire cette route-là, cette route aujourd'hui-là, et à terre battue. Ici, M. le vice-gouverneur a crié, s'il vous plaît, arrangez seulement là où il y a des problèmes sérieux.
Oui, quelle est la société qui... malgré la route interbattue, quelle est la société qui a fait ce travail? Est-ce que c'est seulement les fonaires ou...
La société, là, ce sont les détails techniques. Moi, je parle de l'aspect social de manière générale. Laissez-moi terminer, JR. Donc, je vous dis que cette route a été aménagée à terre battue et aujourd'hui, là, nous revenons encore dans une situation catastrophique. Les véhicules doivent passer des temps et des temps, des jours, des semaines. Pourquoi? Parce que maintenant, là, la route est devenue encore impraticable. Là, vous parlez de la route RN24 qui va de Komanda jusqu'à Kisangani. D'accord, là aussi, ça ne va pas. Vous avez toujours suivi et nous suivons avec vous. Sur la radio au Kati. Là, on est déjà pris, je veux déjà
m'arrêter
là. Là, vécu la situation, ça ne va pas. Et à plus de ça, franchement, je vous dis, en province...
Voilà, je crois que notre...
Une route nationale qui est en bon état, une route nationale asphaltée en province de Ituri. On nous dit que
d'asphalter ici, là, il n'y a pas...
Voilà, comme nous avons le DG de la CGT, il pourrait peut-être nous éclairer. C'est vrai qu'il y a certaines questions, certains coins où ce n'est pas la CGT qui m'attaque expert. Il pouvait nous aider à nous faire une idée sur les travaux qui sont exécutés sur les routes nationales, qui en est le responsable. Donc je crois que là, nous reviendrons. Madame, merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus, et surtout par rapport à cette route. On a compris que vous avez parlé avec beaucoup d'émotion sur cette question, parce que vous avez vraiment les soucis de cette route qui est dans un état de délabrement très, très, disons, dans un état piteux, comme l'a dit un de vos prédécesseurs. Donc c'est difficile sur les routes nationales de passer, nationales 4 et 27 qui relient ces deux villes de l'Est de la RDC. Voilà, Omar, vous nous avez également rejoint, vous êtes avec nous. Bonjour Omar.
Bonjour JR et bonjour à l'invité.
Quel est votre avis, Omar?
Merci JR. Comme tout le monde, nous avons démontré l'importance des routes dans les autres États. Je suis ici à Kinshasa. Je pense que nous sommes sûrs que c'est vrai, il y a des efforts qui ont été fournis dans l'ensemble des Guinéens.
Oui, Omar, il y a des micro-coupures. Vous sortez vraiment très entrecoupés. Alors, si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu.
Maintenant, ça va JR.
Oui, allez-y.
Oui, je disais, c'est vrai, il y a des efforts qui sont faits, qui sont louables, mais dans l'ensemble, 80% des bilans négatifs. Vous allez prendre un tronçon ici à Kinshasa, voyez la route capée là, qui mène vers Rond-Point Gaba. Cette route très fragile et désastreuse depuis que j'ai fini mes études en 2011 à l'UNIKIN, alors que tous les services existent. Aujourd'hui même, nous parlons, il y a seulement une petite pluie lors de la saison sèche, la route est déjà à total débranlement, la circulation est très difficile. Vous allez prendre une grande route Bongolo qui mène vers le marché Gambela, qui est désastreuse. Alors moi, je me demande, qu'est-ce qui est à la base de cela? On dit en matière de route, il y a un niveau de conception, d'exécution, de suivi et d'entretien. Que l'invité nous dise les problèmes et à quel niveau. Comme mon prédécesseur Félicien, je pense hier, si les routes sont en mauvais état aujourd'hui, je veux donner deux cas. C'est par rapport au manque de volonté politique. Il y a beaucoup de services qui existent. L'OVD, je crois, sa compétence au niveau des villes. L'office de route, c'est au niveau de l'intérieur. Et là, CGT qui a une compétence précise. On a même créé les FONER, qui n'est pas seulement là pour financer, mais qui est là aussi pour recevoir des taxes. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent financier? Qu'est-ce qu'on fait du budget alloué au PPR? Qu'est-ce que ces services font? Donc, on se pose des questions. On se dit vraiment, avec l'expertise qu'on a dans ces pays en matière routière, et lorsque ça ne marche pas, il y a un problème de volonté. Deuxième chose, il ne faut pas seulement la créer, il faut aussi la sécuriser pour éviter des accidents. On a vu à Kinshasa, on a tracé des routes pour les piétons, mais ces routes, ces bandages-là n'existent plus. On a appelé un marché chinois comme ça, ça n'existe plus. En plein XXe siècle, dans une ville qui a beaucoup de services. Deuxième chose, on a la culture de l'urgence et des dépenses non utiles. Dans un état sérieux, il y a des priorités, il y a des accessoires. Les priorités sont connues, les besoins fondamentaux de la population, notamment l'accès aux routes. On a l'impression qu'ici, on fait des dépenses économiquement non utiles. On crée une immeuble intelligente qui coûte beaucoup d'argent. On crée beaucoup de ministères qui coûtent beaucoup d'argent, mais les secteurs les plus rentables, les secteurs les plus sécuritaires, la route, on s'en occupe pas. Et moi, je pense qu'il y a aussi un problème de complaisance entre les marchés. La plupart des marchés sont financés ou encore accordés aux firmes étrangères. Et vous savez avec quelles finances économiques, ces firmes-là collectent beaucoup d'argent en termes de concessions. Donc, pour qu'on finisse ce problème aujourd'hui, comme l'a dit Félicien, il y a un problème historique de volonté politique. Je crois que l'actuel ministre de l'Intérieur disait pas quand il était encore opposant. L'État ne peut pas se plaindre parce que l'État a tous les moyens. Aujourd'hui, l'État a tous les moyens. Les moyens humains. On a beaucoup de services. Les moyens économiques. À part les budgets que le Parlement alloue au gouvernement, il y a ce que le FONER récolte comme recette. Il y a aussi les moyens infrastructurels. Mais qu'est-ce qui soit à la base de ce que nous vivons aujourd'hui? Deuxième chose, je pense qu'il faut aussi savoir une certaine capacité. On a comme l'impression qu'on accorde les marchands n'importe qui. Et enfin, les plus grands activistes passent aussi par le Parlement qui doit contrôler et interpeller ces gens qui reçoivent l'argent, qui ont l'expertise, mais qui ne font absolument rien. Je pense que j'ai la somme de ces solutions qui feront en sorte que nous puissions quand même avoir des routes dignes des semaines.
Merci beaucoup, Omar, de votre contribution. Charles Médard Ilunga, vous avez suivi cette série des auditeurs. C'est vrai, il y a quelques-uns qui ont parlé avec émotion, notamment la dame qui nous appelait des Bounia, Claudine, en évoquant la situation à la RN 27 et au niveau de la RN 4 aujourd'hui. C'est des routes nationales qui relient les deux villes de l'Est de la RDC, Kisangani et Bounia, se trouverait donc dans un état d'abandon total. Comment vous réagissez-vous, Charles Médard?
Merci. Je crois que j'apprécie vraiment l'intervention de tout à l'heure et j'ai compris que c'est quelqu'un qui connaît exactement les besoins en planification. Il comprend qu'il y a des priorités, il faut savoir s'occuper des priorités et la route effectivement est prioritaire. Mais je voudrais simplement dire que notre pays a plus ou moins un réseau de 153 000 kilomètres. Et là, c'est des routes, aussi bien des routes de dessertes agricoles, plus de 80 000, 87 000, et les autres, les routes d'intérêt général. Vous vous rendez compte, quand nous prenons la RN1, hein, déjà, la RN1, c'est plus de 3 000 kilomètres. Et aujourd'hui, il y a un effort pour boucler la RN1 d'un bout à l'autre, hein, n'est-ce pas, arriver à avoir déjà une artère complètement bitumée. Hein, vous savez qu'un contrat a déjà été signé pour que d'Ngouba à Kananga, plus ou moins 1082 kilomètres, on puisse asphalter. Et à terme, qu'est-ce qu'on vise? On vise asphalter totalement la RN1 et poursuivre l'asphaltage de la RN2 et consorts. Comme ça, on a sur le réseau prioritaire de plus ou moins 20 000 kilomètres, on commence de plus en plus à avoir des artères bitumées. Mmh. Vous savez, les routes en terre sont... C'est vrai, il faut faire des travaux sur des routes en terre, mais en même temps, ces routes demandent beaucoup d'efforts en entretien. Je crois que on ne connaît pas toujours ce que FONER est en train de mobiliser annuellement. C'est très faible face aux besoins du pays.
Oh là là, on a des petits soucis.
Très faible.
Voilà.
Vous me suivez, oui.
Voilà, c'est comme si on a des petits soucis avec votre ligne, je crois.
Ah, ok. Mais
ça va. Oui, allez-y.
Ça va. Hein. Oui. Alors, je disais que ce que FONER mobilise demande d'ailleurs qu'on ne puisse pas chercher, comme l'a dit notre compatriote, ce qui est de Bounia, il faut amener à Bounia. Aujourd'hui, on est en train de construire un stade à Bounia, un stade moderne à Bounia. Mais c'est un financement qui n'est pas mobilisé grâce aux richesses, aux ressources de Bounia. Donc il y a un effort national qui permet à ce que ce qu'on prend à Kolwezi, qu'on puisse, n'est-ce pas, aller l'investir dans n'importe quel lieu du pays. Ce qu'on prend à Matadi, on peut aller l'investir ailleurs. Donc je voudrais revenir en disant, c'est vrai, il faut des priorités. Tantôt, la dame qui a parlé avec tout son cœur, hein, a fait allusion aux promesses qui ont été faites. Mais vous savez que toute route, quand on fait la planification, il faut tenir compte de la rentabilité. Il y a la rentabilité sociale, il y a aussi la rentabilité économique. Alors, il faut faire un choix, il faut ordonner en fonction des priorités, se savoir dire non, voilà. Maintenant, on se concentre sur tel axe qui est plus prioritaire que tel autre, mais sinon, on ne s'en sort pas. 58 500 kilomètres de route plus d'intérêt général, comment faut-il arbitrer le choix? Il faut donc faire un arbitrage de choix. Et c'est ce que doit faire normalement un ministre qui est en charge des travaux publics. Il essaie de dire, ben voilà, pour cette année, nous nous occupons de tel axe. Je vous dis là que nous sommes sur l'axe de la nationale numéro 1 et il y a plein d'efforts aujourd'hui sur d'autres axes. Hein, et je crois que le pays avait d'abord commencé par assurer la connectivité des routes qui vont vers les frontières et c'est un effort qu'il faut continuer à poursuivre parce que ces routes permettent de booster les échanges avec des pays voisins. Je crois qu'il y a tous ces efforts. Donc moi je pense, sans chercher à regarder en termes de voirie urbaine, la même planification est faite. Ce n'est pas facile de tout faire à la fois. C'est toujours ça aussi, hein. Les besoins sont tellement forts qu'on veut que tout soit fait au même moment. Non, je crois qu'il faut planifier en tenant compte de la rentabilité aussi bien sociale que la rentabilité économique de chaque route.
Voilà, Charles Médard Ilunga, on va terminer avec vous. Juste une question, des curiosités. Et en une phrase, si vous pouvez nous donner la réponse. Pourquoi les travaux exécutés par les Japonais sont différents de ceux exécutés par les Chinois, ici à Kinshasa notamment, si nous citons les cas de poids lourds et tant d'autres?
Non, je crois que je vous ai dit plusieurs fois, chaque route coûte ce que... la structure de la route est fonction du coût que vous consentez. Mmh. Pour parler notamment de l'UNI, hein, le bon tracé du boulevard de poids lourds, Là, je vous dis que c'est bien fait, très bien, une bonne structure, une route avec un uni, très bien. Quand vous passez sur le poids lourd, vous sentez le confort. Ce confort est le fruit de la structure elle-même de la route, dont la couche de roulement est, n'est pas unique. Vous avez deux couches pour arriver à faire un bon uni. Vous ferez ça sur d'autres routes, vous obtiendrez les mêmes
résultats.
Donc voilà, donc la route, il faut
des moyens, il faut de l'argent. Un kilomètre, moyens, un million de dollars. Merci beaucoup, Charles. Charles Elunga Médard, d'avoir accepté notre invitation. Nous vous avons pris à pied levé. Vous avez eu le temps de vous disponibiliser pour nous. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Merci d'avoir éclairé la lanterne des uns et des autres. À très bientôt, Charles Elunga.
Merci, JR.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Polydor Basunga a assuré la mise en onde de cette émission réalisée par Nico Kalambay. Piru Lameji a été au standard de ce programme supervisé par Martin Sebujangwe et coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Merci de rester avec nous.